Bienvenue dans Finance Fait Maison, le podcast où on élabore la recette de notre épanouissement financier avec les ingrédients cachés dans nos placards. Je suis Sandrine, money coach, autrice et fan de développement personnel. Ici, je t'aide à résoudre tes problèmes liés à ton argent pour que tu puisses enfin te concentrer sur ton accomplissement. Je suis convaincue qu'en domptant nos finances, nous domptons notre vie. Alors, allons-y. Hello. Aujourd'hui, je t'emmène explorer la peur du manque. Pourquoi avons-nous cette peur et comment s'en libérer? Et reste bien jusqu'à la fin car dans la deuxième partie de cet épisode, je répondrai aux questions que les abonnés m'ont posées à ce sujet. Avant de commencer, je tiens à remercier l'ensemble de mes auditrices et auditeurs. Un grand merci à ceux d'entre vous qui sont à chaque fois au rendez-vous, ceux qui ont pris le temps de me laisser une note, un commentaire, un message. Merci infiniment. Alors, allons-y, parlons donc de la fameuse peur de manquer. On va commencer par un exercice. Sur une échelle de 1 à 10, à combien se situe ta peur de manquer? Je vais t'inviter à noter là tout de suite ta réponse. Note-la bien parce que je vais te poser la même question à la fin de l'épisode et tu pourras comparer. Ah, la peur de manquer, plongeons maintenant au cœur de cette émotion complexe qui façonne nos choix et nos comportements. Quand il s'agit de peur de manquer d'argent, on peut remarquer à quel point elle influence nos décisions financières, notre manière de gérer l'argent, de dépenser, mais aussi d'épargner et d'investir. Il y a véritablement une énergie du manque dans laquelle on peut être coincé au quotidien. C'est comme un voile qui se pose sur les yeux et qui vient brouiller la vision. La peur de manquer donne ce sentiment qu'il y a quelque chose à perdre à tout moment. Cette impression qu'il n'y a pas assez, et même quand il y en a, l'impression qu'il manque encore quelque chose. Et je vais même aller plus loin en te disant que, selon moi, la peur de manquer est une émotion particulièrement intelligente. Parce qu'en réalité, elle met le voile sur un autre voile déjà présent. Je m'explique. Quand je fais des coachings, j'ai 3 niveaux d'écoute. Première écoute, ce que tu me dis. Deuxième écoute, ce que tu vis. Et troisième écoute, ce que tu ressens. Et les fois où mes coachings portaient sur la peur de manquer, j'ai remarqué une différence entre ce que me dit le coaché, qu'il a peur de manquer, ce qu'il vit, une vie pleine, et ce qu'il ressent, un vide. C'est pas le cas de tous mes coachings, mais j'ai remarqué cela plusieurs fois. La peur de manquer couvre quelque chose, comme pour masquer la véritable émotion. Si je te partage ça, c'est parce que la peur de manquer d'argent n'est jamais vraiment une question d'argent. D'ailleurs, ça se vérifie. J'ai déjà accompagné des personnes de la classe moyenne supérieure et qui n'arrivaient pas à se sentir en sécurité, qui avaient peur de manquer. Une amie qui travaille dans le secteur de la banque m'a déjà rapporté l'histoire de son premier client millionnaire qui l'avait appelé complètement stressé pour une irrégularité de 1 euro sur son compte. Je peux aussi te donner l'exemple de Donald Trump, qui était récemment en procès. Quand il a appris que plusieurs de ses propriétés immobilières risquaient d'être saisies par la justice américaine, eh bien il a déclaré que sa plus grande peur était de perdre de l'argent et de ne plus être considéré comme multimilliardaire. Tu le vois bien, ce n'est pas une question d'argent. Il a peur de perdre ce que son argent lui a permis d'obtenir. La reconnaissance, un statut qui le rend puissant, différent, reconnu. Pour autant, remarque, cette peur ne l'a pas empêché d'être qui il est. Ça va plus loin. Plus il a construit, plus il a eu peur de perdre. Parce qu'on ne peut avoir peur de manquer que quand on a quelque chose à perdre. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu as à perdre ? Et là, on peut me répondre « Ok, Sandrine, mais si ce n'est pas une question d'argent, alors c'est une question de quoi ?» La peur de manquer est toujours le symptôme visible d'une insécurité intérieure. Oui, ça se passe d'abord à l'intérieur de toi. Le problème, c'est que la sécurité intérieure ne s'achète pas. Il n'y a pas un euro qui t'empêchera d'avoir peur de manquer. Je vais te raconter l'histoire d'un homme. Cet homme tient une pièce de 1 euro et il croit dur comme fer que c'est elle qui lui permet d'avancer dans la vie. Que sans cette pièce, il perd tout. S'il pense que c'est la petite pièce de 1 euro qu'il tient dans les mains qui lui permet d'avancer et pas le fait qu'il tienne sur ses deux pieds, alors bien sûr qu'il aura peur de la perdre. Qui n'aurait pas peur? Bien sûr qu'il gardera les yeux rivés sur cette pièce. Il ne verra pas la vitesse à laquelle il avance. Il ne verra pas les autres pièces autour de lui. Il ne verra pas les opportunités juste devant lui. Tout ce qu'il voudra, c'est ne pas perdre cette pièce. Voilà à quoi ça ressemble quand on vit dans l'énergie du manque, alors qu'il aurait suffi de mettre cette pièce dans sa poche et d'avancer. Donc, pour revenir à du concret, il vaut mieux savoir exactement de quoi on parle quand on parle de peur de manquer pour comprendre comment s'en libérer. La peur de manquer est ce qu'il y a de plus normal. Et mauvaise nouvelle, tu ne peux pas t'en débarrasser. Alors attends, je sais que tu n'es pas ravie d'entendre ça. On ne peut effectivement pas s'en débarrasser, mais on peut parfaitement l'apprivoiser. Et j'espère que cette nouvelle te ravit. Tu peux vivre avec la peur de manquer sans pour autant lui accorder une place qu'elle n'a pas besoin d'occuper. La vraie question, c'est pas comment on se débarrasse de cette peur. La vraie question, c'est comment vivre avec la peur de manquer? Comment faire la paix avec elle? Comment faire pour qu'elle ne t'empêche pas d'accéder à l'abondance, à la sérénité, à l'épanouissement? Tout comme ces personnes riches dont je t'ai parlé, qui ont construit leur vie et qui ont quand même peur de manquer par moments. Et c'est ok, je vais t'aider à ne plus faire tout un fromage de cette peur. Je vais la rétrécir de façon à ce qu'elle devienne toute petite et toute mignonne, de façon à ce qu'elle ne t'empêche plus d'avancer. Mais Sandrine, tu es sûre qu'on ne peut pas se débarrasser de la peur de manquer? On doit vraiment vivre avec? Écoute, je ne serais pas honnête si je te promettais que tu peux te débarrasser de la peur du manque, alors même qu'elle fait partie de ton code génétique. La peur de manquer est la raison pour laquelle tu es là. Elle a largement contribué à l'évolution et à la survie de l'espèce humaine. Nos ancêtres vivaient dans des environnements où les ressources étaient souvent limitées et imprévisibles. Plus ils étaient capables de protéger leurs ressources, plus ils avaient de chances de survivre. Je sais que c'est difficile à imaginer vu le confort qu'on a aujourd'hui, mais l'humain n'a pas toujours été entouré de nourriture à profusion comme c'est le cas dans les sociétés occidentales. Nos ancêtres n'avaient pas la possibilité de commander une pizza et de se faire livrer chez eux, de se rendre au marché pour trouver des fruits et des légumes mûrs toute l'année, des aliments en provenance du monde entier. Ils n'avaient pas non plus la possibilité de simplement tourner la poignée d'un robinet pour se servir un verre d'eau bien fraîche. Dans un tel contexte, ceux qui étaient capables de surveiller leurs provisions et de réagir rapidement au risque de pénurie avaient plus de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Donc, le système nerveux a créé la peur du manque pour répondre à ce besoin, pour nous faire réagir et survivre à la pénurie. La peur est une réaction à laquelle nous sommes particulièrement réceptifs. Donc jusque-là, tout est normal. Alors ne plus vouloir avoir peur de manquer, c'est malheureusement impossible. Ça fait partie de nous, de notre code génétique. On ne peut pas s'en débarrasser. En revanche, on peut s'en libérer. Mieux encore, on peut la transformer en un précieux outil. Et oui! Et si ta vision du manque changeait tout simplement? Et si cette émotion désagréable que tu cherches à éviter n'était en fait pas une fatalité, mais plutôt une invitation à explorer tes désirs profonds, tes vrais besoins? Alors pour t'aider à mieux appréhender ce que je te dis, je vais te poser les questions suivantes et à toi d'y répondre avec sincérité, comme d'habitude. Question numéro 1. De quoi tu as peur concrètement? Note-le. Question numéro 2, pourquoi tu ne veux surtout pas perdre ça? Qu'est-ce qui se passerait si tu perdais cette chose? Et pourquoi penses-tu qu'elle peut être perdue? Question 3, pourquoi ne te sens-tu pas capable de recréer ça? Qu'est-ce qu'il te faudrait que tu ne penses pas avoir pour recréer les choses que tu perds? Plus concrètement, la dernière fois que tu as écouté ta peur de manquer, quelle a été la conséquence? Par moments, il y a du bon à avoir peur de manquer. Ça peut aider certaines personnes à sécuriser une partie de leur argent, à être plus vigilants sur leurs dépenses, etc. N'oublie pas que ça crée une réaction et que cette réaction t'aide à survivre. Donc la peur de manquer en tant que telle, elle peut être utile dans plein de situations. Mais globalement, quand on écoute ses peurs, arrive toujours un moment où elles nous freinent. Au départ, elles nous rassurent et ensuite, les peurs voient le danger partout et donc elles finissent par nous dépasser. Ton cerveau est une machine à écrire des histoires. Il va t'écrire des récits incroyables autour de tes peurs. Attention, tu risques de tout perdre. Attention, tu risques de finir à la rue. Tu risques de mourir de faim. Oula, tu risques de manquer une occasion. Bla, 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 bla. Mais au final, ce ne sont que des histoires. Des illusions. Tu as peur de manquer d'argent parce que tu as peur de perdre quelque chose. Ça, c'est l'histoire officielle. Mais l'autre histoire que ton cerveau choisit de ne pas te raconter, c'est que tu as déjà traversé une multitude d'émotions, des plus exaltantes aux plus éprouvantes, et tu as survécu à toutes ces émotions. Tu es toujours là. Alors pourquoi tu te mets en alerte maximale? Pourquoi tu es en hypervigilance? Si tu perds ton argent, ton confort, à quelle émotion tu penses ne pas survivre? C'est en affrontant ces émotions qui nous effraient que nous apprivoiserons nos peurs. Embrasser l'incertitude n'est pas dangereux. Accepter l'inconfort n'est pas dangereux. Nos émotions ne sont pas dangereuses, même les plus inconfortables d'entre elles. ce sont simplement des émotions. Apprendre à les accueillir, à les vivre, c'est embrasser pleinement notre humanité. Comment on fait pour ne plus vivre dans une énergie de manque ? Alors, je vais te partager des exemples concrets de choses que j'ai personnellement arrêté de faire parce qu'avant, c'était ma peur de manquer qui prenait les décisions à ma place. Numéro 1, j'ai arrêté de faire des paiements en plusieurs fois alors que j'avais l'argent disponible sur mon compte. À l'époque, c'est ma peur qui décidait à ma place. C'est ma peur qui payait en plusieurs fois. Elle me disait « il vaut mieux payer en plusieurs fois, ça va alléger la charge. Je ne vais pas vider mon compte. Et puis, au cas où, on ne sait jamais. » On ne sait jamais quoi. J'ai une épargne déjà là pour les au cas où. Là, j'ai l'argent. Il est disponible et je le paye quand même en plusieurs fois. Ma peur me racontait les plus belles histoires. Mais oui, Sandrine, il vaut mieux payer en 4 fois, ça fera moins mal. Et puis c'est sans frais. Et puis tu trouveras ton argent pour autre chose. Les faits sont les faits. J'ai le budget pour l'acheter en une fois, donc je l'achète en une fois. Et je me libère de différer mes choix. Et j'ajuste mes finances en fonction de la décision que j'ai prise. Encore une fois, c'est une décision personnelle. Je ne te dis pas que tu dois m'écouter, mais j'espère que ça t'inspirera pour tes propres choix. Deuxième chose que j'ai fait pour braver ma peur de manquer. Puiser dans mon fonds d'urgence sans stress lorsque cela est nécessaire. Je n'ai pas à me sentir mal parce que j'utilise mon fonds d'urgence pour sa fonction première. Je n'ai pas à me sentir vulnérable parce que j'ai pioché dans mon matelas de sécurité. Et je sais aussi que j'ai toutes les ressources en moi pour me reconstituer un fonds d'urgence. Avant, quand j'écoutais ma peur, eh bien je faisais des chèques. Je stressais comme si on venait de me couper les deux bras et j'étais mal. Je me disais que piocher dans mon fonds d'urgence allait ruiner mes efforts. Troisième et dernière chose que je te partagerai. J'ai accepté de vivre une vie professionnelle avec des revenus instables parce que ça nourrit un important pour moi qui est ma liberté de choix. J'ai même refusé de super offres d'emploi. Avant, ma peur de manquer me disait « tu ne peux pas quitter un travail ». Tu ne peux pas te lancer à ton compte. Tu n'as pas fait toutes ces études pour refuser des propositions d'emploi. Ce n'est pas prudent. Et puis tu as tellement galéré, comment peux-tu rentrer dans une autre galère ? Carrément, une autre galère. Ça, c'est l'histoire que ma peur m'a racontée et j'ai choisi de ne pas l'écouter. Donc, elle a fini par se taire. Tu viens d'avoir un cas pratique avec moi. À ton tour de mettre en face de toi les décisions que tu prenais à cause de ta peur de manquer et comment toi, ton véritable être, décide d'agir dorénavant. Et ça n'a pas besoin de te priver de ton besoin de confort, d'anticipation, de sécurité. Au contraire, tu ne peux pas faire des choix libres quand tes besoins ne sont pas nourris. Ton besoin de sécurité a besoin d'être comblé pour que tu aies la force d'agir sans peur. Alors nourris-le en premier, mais ne laisse juste pas ta peur parler à ta place. Il est essentiel de trouver l'équilibre entre prévoyance et suffisance. Trop souvent, on accumule excessivement ou on dépense excessivement par peur de manquer sans jamais savoir à quel moment on en aura assez. Aie conscience de ce qui est assez pour toi. Et ça, je te le dis très bien dans mon livre « Le guide ultime pour bien gérer son budget » aux éditions Solar. Ton seuil de satiété n'est pas là pour que tu t'en contentes. Au contraire, il te permet juste de savoir à partir de quel moment tout ce que tu as est un bonus qui ne t'enlèvera rien. Que tu le perdes ou que tu le gagnes. Bon, nous arrivons au moment où je vais répondre aux questions des abonnés et on commence directement avec la question de Marina qui me dit « Moi, j'ai une belle enveloppe de côté, 5 chiffres, mais toujours peur de ne pas avoir assez. » Et c'est bien normal Marina, car comme tu l'auras compris, ce n'est jamais une histoire d'argent. L'insécurité que tu ressens n'est pas liée au fait que tu n'aies pas assez d'épargne pour faire face à la vie. Non, tout se passe à l'intérieur de toi. Il y a une partie de toi qui se sent vulnérable pour des raisons qu'elle seule connaît. Et tant que tu n'écoutes pas ce que cette partie a à te dire, Marina, tu continueras de penser qu'il n'y a pas assez, parce qu'elle n'a pas trouvé dans l'argent ce qu'elle recherche vraiment. La vraie question est, qu'est-ce que la Marina d'aujourd'hui qui a une épargne à 5 chiffres et qui a sûrement à côté de ça un revenu tous les mois, un cerveau, un cœur qui bat, un vécu, des expériences ? Qu'est-ce que cette Marina-là n'est pas capable d'affronter ? Qu'est-ce qui n'est pas assez ? Et pourquoi pense-t-elle que l'argent pourrait lui manquer si elle a été capable d'en avoir jusqu'à maintenant ? Je te laisse avec cette réflexion. Et on passe à la question suivante qui est celle de Catherine. Catherine dit « Avec 4 adolescents, j'ai la peur du frigo vide, du coup j'ai un budget course pas possible, mais je fais des efforts. » Waouh, vraiment merci pour ce partage Catherine. Je suis sûre que plein de mamans se reconnaîtront à travers ton témoignage. Évidemment, cette peur du frigo vide qui te pousse à remplir le caddie et donc par la même occasion le frigo, Elle n'est pas orpheline, cette peur. Et c'est ok. Tu me dis que tu fais des efforts et c'est très bien. Malgré tout, je note que tu as employé le mot effort. Cela signifie qu'une partie de toi a besoin de plus d'alignement. Tu as bien conscience que ta peur n'est pas rationnelle, sinon tu ne m'en parlerais pas. Donc on va aller un peu observer cette peur du frigo vide et toutes les personnes qui sont concernées, faites l'exercice avec moi et avec Catherine. Du coup, ferme les yeux et visualise le frigo de chez toi. Il est ouvert et à ta grande surprise, il est désespérément vide. Ta peur est en train de se réaliser. Tes ados risquent à leur tour d'ouvrir ce frigo et de constater comme toi qu'il est vide. Du coup, un tas de pensées commencent à te traverser. Par exemple, mes enfants vont mourir de faim. Ils ne seront pas heureux. Je n'ai pas réussi à les protéger. C'est de ma faute. Ils vont être tristes. Mais qu'est-ce que mes enfants vont penser ? Mais qu'est-ce que les autres vont penser ? En réalité, ce n'est pas bien important de savoir qu'est-ce que ces pensées viennent te dire à ce moment-là. De toute façon, ce qu'elles amènent, c'est de la peur. Elles pourraient te raconter mille et une histoires, ces pensées. Ce qui compte, c'est qu'elles sont là parce que tu as peur, donc elles ne seront jamais rassurantes, ces pensées. Elles vont s'accumuler et faire une belle montagne bien effrayante si tu les crois vraies et que tu les écoutes. Ce que tu peux faire, c'est regarder la situation sous un autre angle. Continue de fixer le frigo vide. Et demande-toi si un frigo vide signifie vraiment que tu ne peux pas nourrir tes enfants correctement. Parfois, des frigos sont vides et des placards sont pleins. D'autres fois, des frigos sont vides mais des ventres sont remplis. Et d'autres fois encore, des frigos sont vides parce que tout le monde a pu manger à sa faim. Des frigos se vident parce que tout a été utilisé comme prévu. Alors, y a-t-il vraiment un sens à continuer à associer un frigo vide à du manque? Et les rares fois où le frigo est vide chez toi, est-ce que tes enfants sont quand même nourris? Est-ce que tes enfants peuvent être nourris et être en bonne santé malgré un frigo vide? Peux-tu choisir de te faire confiance pour ce qui est d'apporter à tes enfants ce qui est bon pour eux? Si tu peux faire ce choix, alors demande à cette peur de te laisser reprendre le contrôle face à ce frigo qui se vide et se remplit au gré de vos besoins, de vos envies, sans que tu n'aies besoin d'être hyper vigilante ou te dépenser plus que ton intuition te dit. Et une fois que tu as ancré ça en toi, tu peux ouvrir les yeux et avancer sereinement dans ta vie. Et laisse-toi l'opportunité de lâcher prise sur ça. Passons à la question de Diana et elle dit « J'ai peur de ne jamais sortir du découvert. » Diana, concentrons-nous sur le « jamais ». Tu as peur de ne jamais sortir du découvert. Qu'est-ce qui te fait croire qu'une Diana qui décide d'en sortir, qui met son énergie à atteindre cet objectif, n'y arriverait pas? Ça te sert vraiment de penser ça? Je vais te dire ce qui se passe en toi, tu vas mieux comprendre. Là, tu t'es accroché à ta peur, tu l'as prise pour vrai. C'est comme si quelque part dans ton inconscient, il y a imprimé que le découvert bancaire, c'est une malédiction de laquelle on ne sort jamais, personne. Tu as peut-être vu autour de toi des personnes qui vivaient toute leur vie avec un découvert et dès que tu es tombé dans le découvert à ton tour, hop, la peur s'est réveillée. Hello Diana, c'est moi. Ton inconscient, ça va? J'ai vu que tu étais à découvert depuis un petit moment là. Bon écoute, je crois que tu ne vas pas t'en sortir. Bah non. Pourquoi tu t'en sortirais, Diana? Tu connais des gens qui sont tout le temps à découvert et qui ne s'en sortent pas. Pourquoi toi, Diana, ce serait différent? Allez, j'imprime que tu ne sortiras jamais de ça et compte sur moi pour t'envoyer régulièrement des shoots de peur, histoire que tu y crois bien. Allez, bisous! Ça, c'était le discours de ton inconscient, pas le mien. Là, tu as besoin de déconstruire cette croyance selon laquelle le découvert peut être une malédiction qu'on porte à vie. Donc, je vais te parler d'une de mes clientes en coaching dont je suis extrêmement fière parce qu'elle traînait un découvert de 1 200 € depuis longtemps et elle n'arrivait pas à s'en dépatouiller. Notre accompagnement a commencé il y a 1 an. Je lui ai d'abord fait une évaluation, ensuite il y a 2 mois, elle est revenue pour des coachings. Donc les 1 200 € de découvert étaient encore là il y a 2 mois. Mais c'était prévu dans son évaluation qu'elle allait rester 1 an à découvert puisque, dans sa situation, la priorité n'était pas le découvert. Mais cette cliente avait tellement intégré que c'était impossible de sortir d'un découvert qu'elle est arrivée en panique pour les coachings. Alors je lui ai dit, ne t'en fais pas, je te donne jusqu'à mars. Ok, on fait les coachings et elle met les choses en place. Mais dans son esprit, maintenant qu'elle n'est plus seule, que le jamais a été remplacé par une date, la peur s'estompe petit à petit. Elle commence à y croire. On passe de c'est impossible à il y a une chance que ça arrive. Si Sandrine me dit mars, alors je vais faire ce qu'il faut et je verrai bien. Ok, deuxième coaching, elle revient et elle a réduit son découvert de 400 €. Et là, on est en mars et plus de découvert. Elle en est sortie, alors qu'elle le traînait depuis longtemps. Elle aussi s'est dit qu'elle n'y arriverait pas. Et ce n'est qu'un exemple sur tous ceux que j'ai dans mon registre. Donc, Diana, les gens sortent du découvert. Si tu décides que tu feras partie de ces gens, tu en sortiras toi aussi. Concentre-toi juste sur le comment. Comment moi, Diana, je fais pour sortir du découvert un jour? Et en formulant les choses comme ça, tu envoies le message à ton subconscient. Et tu lui dis, tu sais quoi, mon petit subconscient adoré, je vais te laisser résoudre le problème que tu as créé toi-même. Allez, je te laisse là et je passe à la question suivante de la Parisienne qui dit « J'ai peur de rester dans ma situation où je ne peux pas épargner et je n'ai rien de côté en cas d'urgence. » La Parisienne, c'est normal ce que tu vis, ça se comprend largement. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est écouter cette peur et ce qu'elle a à te dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ma situation? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il est là l'indice. Quelle partie de ta situation te donne ce sentiment de ne pas avoir le contrôle et comment tu pourrais reprendre le contrôle sur cette partie-là? Tu as le droit de reprendre les manettes et le « en cas d'urgence » dont tu parles, c'est juste un nuage que tu laisses planer au-dessus de ta tête. Tu es en train de stresser en ce moment pour un problème que tu n'as pas encore. En même temps, il n'y a rien qui prouve jusqu'ici qu'en cas d'urgence, tu ne pourrais pas trouver une solution. Ta peur te dit « tu n'as aucune épargne, donc tu es vulnérable, donc s'il y a un problème, tu n'y arriveras pas. » Mais dans les faits, rien ne le prouve. Donc reviens à ta sécurité intérieure, tu es capable de trouver des solutions, même sans épargne, et tu es capable d'épargner si tu le décides. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, ça ne veut pas dire que tu vas épargner beaucoup, ça ne veut pas dire que tu peux le faire là tout de suite. Mais sur l'échelle de la vie, tu as la capacité d'épargner. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas combien, toi seul sais. Je sais juste qu'épargner est un choix que tu as encore. Et qu'en attendant que l'occasion se présente pour toi, tu as aussi la capacité de faire face à des urgences en dépit de ton épargne. Je suis persuadée que tu l'as déjà fait dans ta vie et que tu y arriveras encore. Ensuite, on a Caro qui me dit « J'ai été élevée par ma grand-mère qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et donc avait tendance à surstocker. Et aujourd'hui, j'aimerais me débarrasser de ce fardeau. » Alors, Caro, je ne sais pas si ta grand-mère est toujours parmi nous, en tout cas, j'ai l'impression qu'agir comme ça, en faisant du stock et encore du stock, a peut-être été sa manière de t'éviter à toi l'expérience du manque. Je ne parle pas à sa place, je t'ai transmis juste ma lecture qui est complètement subjective. Et je n'ai pas de réponse toute faite à t'apporter, ce sont des choses qu'on approfondit par exemple en coaching. Mais j'ai une question pour toi qui est la suivante. Qu'est-ce que tu as à perdre si tu te débarrasses de ce fardeau? Qu'est-ce qui arrivera si Caro ne surstocke plus comme sa grand-mère le faisait? Qu'est-ce que ça pourrait définitivement rompre? Et quand tu auras la réponse, tu sauras aussi comment te libérer de ce que tu vis comme un fardeau. Ensuite, Artesano me dit « J'ai peur d'être à la rue, de ne plus pouvoir payer mon loyer à la retraite. » Artesano, ma réponse est simple, il y a deux possibilités. Soit ta peur arrive parce qu'il y a des raisons valables, tangible, et donc ce n'est pas une peur de manquer, c'est la peur d'un danger qui est déjà là. Tu ne l'as pas imaginé dans ta tête, tu te bases peut-être sur des raisons qui sont des faits, tu risques peut-être d'être à la rue, et à ce moment-là, je t'encourage à te faire aider dès maintenant. N'oublie pas, on a toutes les ressources en nous, donc tu as forcément l'énergie qui te donnera de l'élan pour aller chercher l'aide dont tu as besoin. Demander de l'aide, ça aussi c'est difficile car ça amène des émotions désagréables et là aussi, il n'y a pas une émotion, même inconfortable, que tu ne puisses surmonter. Si ce n'est pas quelque chose de factuel, c'est peut-être la possibilité numéro 2. Ta peur n'est pas rationnelle mais elle arrive avec un vrai message à écouter. Qu'est-ce qui fait que cette peur a été déclenchée et quelle réponse est plus appropriée à cette peur que la réponse que tu lui as donnée jusqu'à maintenant ? Ensuite, Julien me dit « J'ai la phobie du manque, ce qui me complexifie la tâche car tu en viens à faire n'importe quoi. » Alors, si tu as une phobie, Julien, n'oublie jamais qu'il existe des personnes expertes qui peuvent réellement t'accompagner. Ne t'en prive pas. Néanmoins, je note dans la formulation de ta phrase une chose intéressante. Tu dis « J'ai la phobie du manque, ce qui me complexifie la tâche car tu en viens à faire n'importe quoi. » Tu commences par dire « j'ai », donc tu t'appropries ta phobie, et après tu finis par dire « tu » en généralisation. Et c'est inconscient. Tu t'es juste dissocié de tes réactions, exactement comme fonctionnent les phobies. Elles donnent l'impression qu'on est hors de nous. Sauf que tu es bien dans ton corps à ce moment-là, et si tu te dissocies de tes réactions, ça dit à ton inconscient que tu n'as pas la possibilité de changer ça, car ça ne vient pas de toi. Donc il est important que tu te fasses accompagner pour ce travail sur tes phobies, tout en restant ancré dans ton corps. Tes réactions t'appartiennent, c'est largement ok, et c'est important parce que quand tu vas travailler sur ta phobie, tu vas travailler sur toi, et pas sur les réactions de quelqu'un d'autre. Et c'est important que ton inconscient l'intègre. Et c'est là que je m'arrête parce qu'au-delà, ce n'est pas mon domaine de compétence. Ensuite, Laurie me dit « J'ai peur d'être bloquée dans ma vie car je ne peux pas payer ce dont j'ai besoin pour avancer. » Alors Laurie, j'espère que tu as attentivement écouté l'histoire de l'homme avec la pièce de 1 euro que j'ai racontée un peu plus tôt. Ensuite, il y a Sam qui dit « J'ai peur d'être de nouveau au chômage. » Donc Sam, tu as peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et ça peut t'amener à vivre ce que tu cherches à éviter. Donc reviens à ta sécurité intérieure. Sam n'est pas au chômage. Si elle l'est de nouveau, elle survivra à l'inconfort que ça va amener. Et si elle souhaite en sortir, elle en sortira de nouveau. Même réponse pour Nadine qui a peur de ne pas pouvoir payer les factures puisque l'énergie, l'électricité, tout ça augmente. Pareil pour Sohan qui dit avoir peur de perdre tout ce qu'elle a réussi à acquérir. Il ou elle, je ne sais pas si Sohan est un homme ou une femme, mais écoute Sohan. De toute façon, à partir du moment où tu as peur de perdre quelque chose, c'est parce que tu as réussi à construire quelque chose de top. Bravo pour ça, félicite-toi, savoure ce que tu as fait, mais ne t'identifie pas à ce que tu as construit. Reviens à ta sécurité intérieure. Même si demain tu perdais cela, ça n'enlèvera rien à ta capacité à aller chercher de nouveau ce qui te rend heureux ou heureuse. Sohan, tu n'es pas ce que tu as réussi à acquérir, tu es plus que ça. Tu restes un être complet avec ou sans ce que tu as construit. Et la dernière question, c'est celle de Julie qui nous dit « J'ai peur de manquer d'argent, mais depuis que je fais les enveloppes, ça va. » Eh bien, c'est très bien si ça va. La peur de manquer, on ne peut pas l'effacer, on peut juste baisser le volume au maximum et quand c'est fait, on avance comme le fait Julie. Donc voilà, on arrive à la fin de ce bel épisode. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'on a tous cette peur de manquer à différents degrés, mais comme tu l'auras maintenant compris, ça fait partie intégrante de l'expérience humaine. La money coach que je suis a aussi été traversée par la peur du manque. Certaines fois, elle est venue pour des raisons légitimes que j'ai écoutées. D'autres fois, cette peur est venue me raconter des histoires que j'ai réécrites pour avancer. Et je suis certaine qu'elle viendra encore me faire des petits coucous. Et à ce moment-là, je me retournerai vers ma sécurité intérieure qui saura mieux que tout ce qui doit être fait. Alors, maintenant que l'épisode est terminé, sur une échelle de 1 à 10, à combien se situe ta peur de manquer ? Et à combien étais-tu en début d'épisode ? Partage-le-moi en message privé sur Instagram, j'ai vraiment hâte de le savoir et je te répondrai bien évidemment en priorité, bah oui, priorité à l'exercice express. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si tu as passé un bon moment, n'oublie pas de me le notifier en laissant un avis. Nous, on se retrouve au prochain épisode. En attendant, on a fini la recette du jour, c'est du fait maison et c'est toi le chef. Alors, bon appétit !